CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Eh bien allez, chaise ou pelav, libidim, patatrac, badaboum, le mag d'actualité, mardi 2 juillet, hello les HP.
Oui, c'est nous.
Salut.
Loulou et Nat, rendez-vous hebdo en roue libre et carte blanche au Café Associatif 34 rue Alibert, ouvert à l'adresse indiquée, un sommaire, un générique, et puis le déroulé du programme. Loulou, Nat, Loulou. L'instant et donc, l'heure est grave.
Un petit sommaire, donc on va parler de la nouvelle employée donc, des haut-parleurs. On va parler d'une nouvelle expo aussi. Et puis on va parler d'un atelier à venir pour fabriquer des galettes bretonnes.
Je suis venu de mon plein gré, mais je n'en sortirai que par la force des baïonnettes.
Je vais manger.
Allez.
Alors, on va commencer par exemple avec la nouvelle employée.
Oui,
donc ça y est, on sait qui c'est.
Ça y est.
L'employé mystère.
Oui, on embauche Julie à partir du 21 juillet. Julie va s'occuper d'animer l'espace de vie sociale et d'animer le bar dans le cadre de l'agrément que nous avons obtenu avec la caisse d'allocation familiale. Elle sera là aussi pour la programmation, elle sera là pour la communication, elle sera là à l'accueil des nouveaux bénévoles. Quelqu'un de dynamique qui nous vient de l'éducation populaire et qui part pour un CDI au haut-parleur.
Et
peut-être jusqu'au bout, quoi.
Jusqu'au bout du bout.
Ben voilà, une embauche qui n'a pas été très simple à finaliser. Beaucoup de candidats, beaucoup de demandes. Mais on pense avoir tiré le gros lot. Et puis on la recevra quand même dans l'émission.
Ah ben, c'est incontournable.
Après sa prise de poste, on la recevra sûrement fin août ou début septembre.
Bien sûr, on aura comme ça ses premières impressions, et puis elle pourra se présenter en direct.
Oui, elle nous expliquera qu'elle va être mobilisée sur... Je peux commencer d'ores et déjà à dire ce qu'elle va faire, parce qu'on y a quand même beaucoup travaillé dans le cadre du CA. Elle va être mobilisée sur des missions comme l'anniversaire, le 1er novembre, comme le partenariat avec le Festival en Bastide aussi, avec le Secours Populaire, pour maintenir des actions qu'on mène depuis quelques années... comme le repas de Noël, le petit marché de Noël, enfin toutes ces choses-là, il faudra en passer par Julie, quoi, pour coordonner un petit peu tout ça.
Bon, c'est super parce que ça permettra de soulager quand même bien des bénévoles.
Ouais, et puis surtout le conseil d'administration, on peut saluer le boulot de Seb, Magali, Valérie aussi, qui ont fait un sacré travail cette année.
Ça va les soulager.
Ouais, ça va les soulager.
Poste administratif autour de l'événementiel, donc le développement des partenariats, le maintien des partenariats en cours, et puis peut-être le développement d'autres
partenariats aussi, et puis vraiment en appui aussi de Darshan. Darshan sera plus, elle, sur le lieu et sur la gestion de la cuisine, l'accueil des bénévoles, des équipes cuisine aussi. Toutes les deux seront à l'animation et à l'accueil des bénévoles. Ça, c'est une mission qui est transversale aux deux. Après, c'est quand même deux boulots différents, quoi. Darshan étant quand même plus sur un espèce de quotidien et de préparation, les courses, tout ce qui est les affaires courantes. Le bar, quoi. Ouais. Et Julie sera beaucoup plus amenée à sortir un petit peu. On aura peut-être même un local à la Maison des Sociétés. Enfin, on envisage des choses extérieures au bar un petit peu. On va se rendre visible à l'extérieur. C'est aussi, on va lui demander aussi de réfléchir à ça. À Julie, comment on pourrait avoir peut-être un stand avec une banderole haut-parleur pour aller au salon des assos, enfin, tous les événements auxquels nous sommes conviés. Julie participera aussi à tout ce qui est les assemblées générales des associations partenaires, nous représenter, quoi.
On aura l'occasion de la croiser peut-être fin juillet ou en tout cas
fin juillet, début août, on l'interviewera, on la fera venir en studio.
Et à propos de bénévoles, de choses comme ça, en dernière minute, là, il y a un message de Darshan qui recherche un cuisinier pour jeudi.
pour jeudi.
Là, ça commence à être la période d'été, les gens sont un peu partis. Ouais. Oui. Et ça serait un peu dommage d'être obligé de fermer parce qu'on n'a pas de cuisinier.
Et c'est ça, comme tu dis, Nathalie, le truc, c'est que si on n'a personne pour cuisiner, on va être obligé de fermer.
Et fermer, c'est aussi une perte d'argent. De l'argent, il en faut un petit peu quand même. On n'est pas là pour faire de l'argent, mais pour faire tourner la boutique, il en faut un peu.
Donc, on lance un appel si certains d'entre vous, demain après-midi, ont du temps à donner. Et se sentent une âme de cuisinier un peu collectif. Voilà,
préparation
quoi.
De 14h à 18h à peu près. Et ensuite,
c'est un repas
jeudi
pour 40
matin,
personnes.
Voilà. 40-50.
40-50 personnes.
Avec une version végé, toujours, bien sûr. Il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui mangent végé. Et puis, c'est l'occasion de se lancer, parce que quelquefois, on hésite. Et puis, hop, finalement, on se dit, finalement, je pourrais y aller. Et puis, puis après, on s'aperçoit que c'est vachement bien, quoi. Enfin, c'est passer le cap de l'appréhension. Tu te dis, après, quand t'as réussi ton repas et que les gens viennent te féliciter, t'es trop fier, quoi.
C'est un petit défi, quand même, j'imagine.
Ouais, c'est un petit défi, là. Surtout la première fois, quoi. Enfin, bon, en même temps, t'es jamais tout seul, donc il y a toujours quelqu'un en complément.
Non, c'est ça, il y a toujours une équipe autour de Darshan.
Moi, au bout de 6 ans, je sais toujours pas me servir de la machine à riz, mais bon, je bloque un peu sur les machines. Mais il y a toujours quelqu'un, n'est jamais complètement. Abandonné.
On continue. On peut parler. On va parler de l'expo.
Voilà.
On change d'expo pour tout l'été. On accueille une amie qui nous vient de Toulouse, qui s'appelle Minouche, qui n'a jamais exposé, qui est quelqu'un de moi je trouve formidable. Enfin, c'est une bonne copine qui est un peu farfelu comme ça, qui va nous exposer des broderies. Voilà, elle brode beaucoup. Ça va être tout l'été. Avec le vernissage est prévu samedi 6 juillet en soirée à partir de 19h pour découvrir son expo, la rencontrer aussi et puis écouter une amie à elle qui va passer de la musique, une DJette pour la soirée. Voilà, on fait un petit vernissage. C'est samedi.
À quelle heure ?
À 19h.
Lors de l'apéro.
Lors de l'apéro pour l'expo de Minouche. On continue avec une proposition.
L'atelier. Atelier galette.
Un atelier de galette bretonne qui est souvent réclamé un petit peu par les bénévoles et que Valérie essaye de formaliser et qui doivent se dérouler normalement les 19 et 20 juillet.
Oui, parce que mine de rien, faire des galettes, c'est quand même un tour de main qu'il faut acquérir. Et quand il n'y a personne, c'est pareil. Parfois, le samedi, on fait les galettes et il n'y a personne qui sache faire. Tu vois, moi je ne sais pas les faire.
Ouais.
Donc, alors, ça peut être très intéressant.
C'est quand même
ça.
Assez demandé. La formation, enfin, l'apprentissage est gratuit sur 2 jours quand même.
Ah, 2 jours ?
Ouais. Les places sont limitées. C'est surtout
et on
ça
connaît les dates déjà.
Oui, 19 et 20 juillet.
19 et 20 juillet.
Les places sont limitées à 10 personnes. Contactez le bar pour vous inscrire, quoi. Ou par mail ou par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, la formation de galette bretonne.
Avec la tenue, j'ai lu quelque part.
Ouais. Ou
pas. Enfin, c'est pas totalement obligatoire, mais il paraît que ça aide tout de même pour le mouvement.
Ouais.
Le geste technique.
Bon, et voilà, et puis pas plus, on n'avait pas d'invité, alors on a brodé un peu.
On n'a pas de...
David.
C'était l'atelier broderie.
C'était l'atelier broderie.
Non, c'était pas l'atelier, c'était la...
On mélange tout.
Voilà.
L'expo broderie autour d'un atelier galette bretonne.
C'est tout, les HPO 34
Alib. Et puis on n'a pas de concert.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de concert. Voilà. On peut déjà annoncer l'invité de CFM la semaine prochaine, qui sera Pierre Barré, qui est un artiste... j'allais dire théâtre, mais qui est comédien. Je veux dire, c'est un comédien qui vient nous présenter son spectacle Ça cartonne, qu'on avait reçu déjà il y a 2 ans autour de l'histoire du carton à pizza. Une espèce de conférence gesticulée humoristique et avec plein de gags. Du théâtre quand même de rue comme on peut l'apprécier. Ça se déroulera, alors je veux pas dire de bêtises, je regarde, ce sera le samedi 13 juillet. Voilà. Et Pierre propose à l'issue de son spectacle de nous faire une soirée DJ. Donc après la galette...
C'est super.
Ouais, après le spectacle, ça cartonne. On passe des galettes bretonnes aux pizzas. En fait, c'est assez fou. Là, si on n'est pas en roue libre. Après les galettes bretonnes, on retrouvera les cartons à pizza avec Pierre Barré le samedi 13 juillet.
On peut parler de musique. On diffusait Tollard la semaine dernière.
Gros concert, super concert. Merci à tout le monde d'être venu. Là, on a touché à la limite de nos capacités d'accueil parce qu'il y avait énormément de monde pour un concert un mardi soir. Voilà, super groupe. Bon, ils reviendront, c'était vraiment super, quoi.
Tollard. Les abords du lycée, c'est ce qu'on avait diffusé la semaine dernière. On retrouve l'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. Puis à la radio, c'est bien. Le mieux, c'est de passer vous voir au 34 rue Alibert. Peut-être avec son sandwich jeudi, le mieux, ça serait de trouver
un cuistot pour demain.
Il reste quoi, 48 heures.
Un cuistot ou une cuistotte, comme on dit au féminin.
Allez, on dit pas. Tout mettre au féminin.
Non, moi je suis pas pour.
Ah bon, d'accord. Allez, à la semaine prochaine. Belle journée. La suite du programme après une rapide.
Et à bientôt après les vacances.
Eh ben oui.
Bonnes vacances, Nathalie.
Bisous, Nat. À quand? À septembre plus.
Bon. Je sais même pas si je vais revenir.
Direction la Croatie.
Oui.
T'as une place avec toi ou pas?
Oui.
Eh ben, profites-en.
J'ai deux ou trois places. Que ça intéresse. En passant par Brescia en Italie et la Slovénie.
Bah, vous appelez à la radio si vous savez pas quoi occuper.
Oui, parce que je vais quand même pas vous filer mon numéro de téléphone. Mais par contre.
Allez, on filtre.
Voilà. C'est génial.
La musique et, direction le Moulin des Arts de Saint-Rémy. Bénédicte Desrameaux, médiatrice culturelle, s'entretient avec l'une des trois artistes qui expose actuellement et jusqu'au mois de septembre. L'artiste, c'est Delphine Gigou-Martin. Et l'exposition est intitulée Ainsi va la vie au coin du bois. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Belle journée. Bye.
These be seven curses on each judge. These be seven curses on each judge. These be seven curses on each judge. My friend, these be seven curses on each judge.
Assuredly, I say to you,
these be seven curses on each judge. These be seven curses on each judge. Before she sleeps in the sand, isn't how many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend.
I've read somewhere that you wrote "Blowing in the Wind" in 10 minutes. Is that right?
Has anybody seen Lowry?
L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve? Voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.
Bonjour à tous. On se retrouve pour un petit moment ensemble avec l'Atelier Blanc, donc espace d'art contemporain, qui vous propose une grande exposition qui va se déployer sur les deux lieux, donc à l'Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue et au Moulin des Arts de Saint-Rémy. C'est une exposition qui s'appelle « Ainsi va la vie ». Une première partie donc à l'Atelier Blanc avec « Ainsi va la vie au fil de l'eau » et l'artiste Tsama do Passo. Et un autre volet au Moulin des Arts, Ainsi va la vie au coin du bois, avec Cécile Beau, Delphine Gigou-Martin et Victoria Klotz, qui vont nous parler un peu de nature et bien plus. Nous sommes au Moulin des Arts et on est dans la première salle d'exposition où on rentre dans un grand univers que nous propose Delphine Gigou-Martin, qui est ici avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez passé un certain temps ici. Vous étiez arrivé avec des murs blancs. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, la pièce s'appelle « De la fin du vol ». C'est une pièce que je réactive, qui date de 2008, que je réactive pour l'atelier blanc dans cette programmation qui a l'air de tourner, en fait, autour de la question de la forêt, du bois, des arbres. Cette pièce, en fait, c'est une image de la forêt avec des grands dessins au fusain qui sont sur les murs. On se retrouve au milieu, en fait, un peu comme dans une prairie au milieu d'une forêt qui est assez impénétrable. Il n'y a pas de perspective. C'est un dessin vraiment en aplat sur les cimaises blanches qui sont les, on va dire, les murs conventionnels des espaces d'art contemporain, sur lequel j'ai plaisir à venir, on va dire, dessiner avec vivacité, fulgurance, rapidité, ces arbres au charbon de bois, ces arbres qui sont un peu brûlés, en fait, qui sont assez étranges.
Et ça leur donne le fait de la spontanéité ou la rapidité du geste, ça leur donne quelque chose de plus vibrant aussi. Après, pourquoi le choix du fusain ?
Parce que c'est déjà du charbon, en fait c'est déjà du bois brûlé, ce qui est assez déjà, à mon sens, chargé, on va dire. Et ensuite, c'est...
Par rapport à l'art pariétal, aux grottes, oui. Ou pas...
Oui, oui, par exemple, effectivement. Et puis, c'est aussi, normalement, dans la pratique du dessin ou de la peinture, le fusain, c'est ce qui sert aux ébauches. C'est rarement l'outil utilisé, enfin, le matériau au final pour le dessin. Donc, en fait, j'aime bien aussi cette idée d'utiliser un outil qui est normalement pour ébaucher un projet, mettre en place un dessin sur lequel par-dessus on venait peindre ou remettre du crayon, etc. Donc il y avait cette question-là. Puis ensuite, parce que ça dépose une poudre noire sur les murs qui crée ce velours, hein, c'est un noir assez intense, on sent pas en fait, on voit pas tellement ce que c'est, c'est-à-dire... Il y a plusieurs épaisseurs, évidemment, du fusain, etc. Mais c'est parce que ça dépose un peu cette poudre sur les murs, parce que ça s'accroche un peu comme vous évoquiez l'art pariétal. C'est-à-dire, en fait, selon le bois, la rugosité du support, j'ai un tracé qui est plus ou moins flagrant, vibrant, net, etc. Et je joue avec ça aussi.
Ce qui est assez aussi prenant quand on rentre dans la salle, c'est qu'on rentre effectivement donc dans une forêt, mais du coup dans un univers, c'est assez immersif si on peut dire, dans le sens où ça nous entoure. C'est tout autour de nous et à la fois on est en circulation parce qu'on on circule dedans. Et pour autant, on est sur de la 2D où c'est l'espace mental qui prend le relais. Quand on circule, on découvre en fait des oiseaux en porcelaine qu'on voit pas peut-être de suite en rentrant. On les découvre peu à peu. Si ce n'est que, donc a priori des pigeons, si ce n'est qu'ils sont en mauvaise posture.
Oui, alors vous l'avez évoqué, en fait, on se déplace dans un lieu qui est vide, c'est-à-dire la salle est complètement vide, et pour autant on est complètement enfermé par le dessin. Effectivement, les arbres sont surtout les murs, c'est plutôt bouché, ce que je disais, en fait, hein, on est au bord d'un paysage, en fait, on rentre pas dans un paysage, c'est assez particulier. On a cette impression de rentrer dans un espace, mais finalement d'en être assez rejeté, et qu'on est bien devant des images d'une forêt ou d'arbres qui sont, on va dire, faussement naturalistes. On a l'impression, on reconnaît de suite le dessin, c'est figuratif, il n'y a pas de doute. En même temps, on est dans l'incapacité de nommer l'arbre ou la plante, hein, ou ce qu'elle est. C'est complètement, en fait, inventé au fur et à mesure du dessin, en fait. Hein. Je ne prépare pas de projet. J'ai des croquis avec moi, j'ai des photos, j'ai des choses comme ça, mais je crée au fur et à mesure, selon aussi les angles droits de la pièce ou les angles coupés, etc. Et puis, on peut remarquer aussi que, de toute façon, ces arbres sont coupés, c'est-à-dire, ils sont pratiquement à l'échelle 1, où ils nous donnent cette impression, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a jamais la pointe des arbres, on est presque devant essentiellement des troncs avec le bas des branches en gros plan, ce qui est aussi pour moi cette idée du fragment de la nature, de cette représentation, c'était le mot juste, effectivement c'est une image mentale et c'est recréer une image, c'est vraiment cette idée de la représentation et qui est vraiment chargée en fait hein, par le dessin, par le fusain, par ce qu'il représente, de ce qu'on peut imaginer de la forêt de ce qu'on peut imaginer de la nature. D'ailleurs, les pigeons se sont laissés prendre par cette représentation, puisqu'ils ont cru pouvoir rentrer au milieu de cette forêt et se mangent le mur et sont donc dans cette posture dont vous parliez, qui s'écrase sur le mur blanc. Et les pigeons sont essentiellement placés sur des zones non dessinées, comme si cet espace, c'était un espace vide. Alors qu'en fait, l'espace vide n'existe pas, il est cette matière sur laquelle j'ai dessiné, ici des bois peints en blanc, des simèzes, et nous renvoie justement à cette matérialité, qui est, entre guillemets, effacée par le dessin, qui tend à disparaître par la surface dessinée qui évoque ou qui parle du dessin, justement, de l'image, etc. Et en fait, de la représentation. Et le pigeon, lui, il est là dans cette confrontation où il nous rappelle la matérialité des choses. Et lui, il passe pas à travers le dessin et il se retrouve à s'écraser comme quand certains oiseaux se mangent les vitres.
Oui, avec le reflet du ciel dedans.
Voilà. Et effectivement, ils sont en porcelaine, ce qui était aussi un... Donc la porcelaine est blanche, là c'est la technique biscuit, donc pas émaillée. Ils sont tous dans une position différente, donc même en partant d'un moule, c'est-à-dire qu'en fait, c'était important en fait, qu'il n'y ait pas cette idée d'un élément objet reproduit à l'identique, hein, mais que chacun puisse être unique dans ce moment dramatique du passage de la vie à la mort, ou de moins de plein vol à ne plus voler. Et c'est un peu comme un arrêt sur image, hein, en fait, hein, comme si on regardait un film et on arrête l'image pile au moment où l'impact se fait, la mort se fait, on va dire la perte se fait, et non pas le après. Hein. Donc c'est vraiment une sorte de fraction de seconde qui est représentée ici, avec cette confrontation avec des arbres qui ne bougent pas ou qui sont dans des temps beaucoup plus lents et qu'on ne voit pas bouger, et au contraire les pigeons qui sont dans
réalisés
cette...
avec du bois calciné
qui voilà pousse. Et là du coup qui sont dans cette fulgurance de, on peut imaginer de leur mort vu leur attitude. Et en fait effectivement ce sont aussi représentent vraiment bien des pigeons, on les reconnaît sans problème, donc on est bien dans aussi du figuratif. Et la porcelaine a cette capacité aussi très belle de, quand on la manipule non cuite, de garder en mémoire les formes qu'on peut lui donner. Donc ça se retrouve ensuite dans la cuisson. Et évidemment, si on jette de la porcelaine sur un mur, ça ne se passe pas comme ça, elle se casse. Donc voilà, à chaque fois on pense reconnaître quelque chose, on pense à quelque chose, et puis ça se déplace légèrement. Une porcelaine, elle se casse pas comme ça, elle se brise pas comme ça. Par contre, le pigeon, oui, mais le pigeon, normalement, il est pas en porcelaine, etc. Chaque fois, il y a un déplacement, en fait, pour créer une image qui est effectivement... qui paraît logique.
Donc là, on a des enjeux, pour le coup, propres aux arts plastiques, mais qui viennent sous-tendre aussi un propos. Et il y a quelque chose de une sorte de violence poétique dans un deuxième temps. C'est assez violent, c'est tous ces oiseaux qui viennent s'écraser contre une sorte d'illusion, un peu. Et alors, j'avais lu un article sur ce travail-là et qui évoquait la chute d'Icare. Donc là où la forme sous-tend le fond, par rapport à cette question-là, vous l'aviez en tête au moment où vous avez pensé cette pièce ?
Oui, oui, parce que de toute façon, dans beaucoup de mes travaux, il est question en fait un peu de la chute ou de ce temps dont on parlait là, de ce temps. La question de la vie ou la mort, c'est surtout qu'il y a une sorte de, comment dire, on a surtout des interrogations, non pas sur ce fraction de seconde de cette perte en fait, de cette chute, c'est-à-dire de ce passage de la vie à la mort qui visiblement, comment il se passe et qui peut être très court.
Et l'aspect certainement inexorable aussi, on est forcément inexorablement mené à disparaître d'une manière ou d'une autre.
Tout à fait. Et du coup, effectivement, c'est plutôt sur des histoires de chute ou de perte que la violence se retrouve à cet endroit-là, en fait.
Merci. On a de la chance qu'elle ait été là et qu'elle ait pu nous parler de cette installation et qu'on vous invite vraiment à venir découvrir. Et à apprécier l'espace.
Il y a quand même une histoire, vous parliez de tragique, mais il y a quand même une histoire d'humour aussi. C'est-à-dire l'idée de se laisser berner par l'illusion ou la représentation. C'est aussi savoir faire un pas de côté. Je parlais tout à l'heure de décaler. Et c'est aussi de prendre les choses avec un regard humoristique. Alors ça peut être un humour noir, en l'occurrence ce serait plutôt ça, le mien. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire comment pouvoir rire ou pouvoir aussi prendre un recul par rapport à ça. Et effectivement, ces oiseaux sont aussi dans une situation ridicule, comme on peut imaginer le moment de la mort.
Et dans l'absolu, c'est une forme de résistance aussi.
Ou du moins, c'est une façon de pouvoir vivre, en fait. Il y a une très belle phrase d'Anou qui disait « Mourir, ce n'est rien, apprends à vivre. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus terrible.
» Elle nous fait une fin qui nous laisse pensifs et sur une note positive. Merci beaucoup.
L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté, en fait, ou le rêve? Voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient. On disait, viens,
on va arriver. Au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.